parle d'art sonore aujourd'hui à la suite dans les idées à propos de sonder le monde. C'est le titre du livre de la philosophe Pauline Nadrini, pardon. Et on en parle aussi avec vous, Félix Blum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint à distance, donc on va devoir régler le son avec vous sans vous voir. C'est l'une des choses dont on a parlé tout à l'heure avec Pauline Nadrini. Je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas comment on dit. J'ai trouvé sur le web sound artist, mais en français on dit quoi ? Artiste sonore plutôt que musicien.
La traduction littérale serait quand même artiste sonore. Musicien, il y a l'idée de créer soi-même une matière sonore, même si on a évoqué dans la première partie la musique concrète toutes ces autres manières d'utiliser le son. Mais moi, je préfère l'idée d'artiste sonore ou même d'ingénieur du son. J'aime assez bien l'idée qu'il n'y a pas forcément une frontière très précise entre ingénieur du son, preneur de son, artiste sonore, et que finalement, mon travail, c'est peut-être amener les gens à l'écoute ou faire le lien entre des sons et des possibles personnes qui viendraient les écouter.
Vous êtes de formation ingénieur du son ?
C'est ça, j'ai une formation d'ingénieur du son pour le cinéma. J'ai d'abord étudié en France, puis ensuite en Belgique, et j'ai commencé vraiment ma carrière comme preneur de son, principalement pour des projets documentaires. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à aller enregistrer des sons parfois lointains, découvrir des territoires et des gens qui les habitent à travers le son, à travers la prise de son. Et c'est vraiment via cette première casquette de technicien ou d'ingénieur que j'ai commencé à travailler avec le son.
Ça ne doit pas être évident de savoir dans quel univers social, je veux dire, on vit, parce que vous expliquez que vous veniez du cinéma, mais aujourd'hui les artistes sonores, on est face à leurs œuvres ou à leurs propositions plutôt dans des contextes liés à ce qu'on appelle les arts plastiques, en fait, plus souvent, donc ils sont très souvent visuels. Comment on arrive malgré tout à exister dans cet univers-là, à rendre possible des propositions artistiques?
Je crois que on en a parlé un peu dans la première partie. C'est vrai qu'il y a eu un intérêt pour le sonore dans les dernières années, qui se retrouve du coup dans plein de médiums, plein de pratiques différentes. Alors on pourrait voir ça comme un problème, le fait qu'il n'y ait pas forcément une délimitation claire, une catégorisation claire de ce que seraient ces arts sonores. Mais on peut aussi le voir comme un avantage où justement on peut être ni d'un côté ni de l'autre. On n'a pas forcément une barrière précise de où s'arrêteraient les arts sonores ou pas. On peut tout à fait déborder en effet vers la musique, vers la radio, vers les arts plastiques. Et je pense que c'est après à chaque fois de trouver la bonne manière de pouvoir trouver sa place, de pouvoir amener au sonore et de pouvoir en effet focaliser sur le son et sur l'écoute dans des milieux qui sont parfois un peu plus tournés vers le visuel, vers le plastique, vers des choses qui ne sont pas forcément sonores.
Pauline Nadrini, cette indétermination, au fond, est un avantage à plein d'égards. Il n'y a pas d'institution, par exemple, culturelle, qui serait dédiée uniquement à ces arts sonores, que je sache. De grosses institutions publiques.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'indétermination. Je pense que ça se cristallise un petit peu, mais c'est vrai que, pour prendre un exemple, là, je travaille avec une artiste sonore qui s'appelle Mélia Roger et qui fait ses travaux en prise de son, en field recording, au Frénois, dans une école d'art, donc plutôt dans un contexte lié aux arts plastiques et à l'installation. En tout cas, il y a l'idée qu'avec l'enregistrement, la sonorisation, l'électroacoustique, il y a une forme de spatialisation du son qui fait participer les arts sonores des espaces institutionnels traditionnellement liés aux arts plastiques.
Félix Blum, je vous laisse nous décrire peut-être une pièce récente ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment, par exemple.
Oui, alors moi je suis arrivé justement dans ce monde des arts plastiques via le sonore quand on m'a proposé en 2015 de présenter une création sonore que j'avais faite pour la radio. C'était une carte postale sonore pour Arte Radio. On m'a proposé de la présenter dans un espace et donc tout d'un coup ça m'a ouvert cette troisième dimension, on va dire, de l'espace d'exposition et de comment est-ce qu'on invite les visiteurs ou les auditeurs à se placer dans cet espace, à éventuellement évoluer, à éventuellement choisir leur lieu d'écoute. Et donc depuis là, c'est là où ça a ouvert toute une série de projets qui se sont beaucoup plus rapprochés de l'installation sonore, plus que de la création sonore telle que j'avais pu la faire au départ pour la radio, pour des médiums sonores uniquement. Alors je vais parler de la toute dernière exposition, au dernier projet que je suis en train de travailler ici à Albi. C'est un projet que j'ai fait avec des personnes, enfin des jeunes et des adolescents sourds et malentendants. Et donc avec eux, on a travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, au cours de plusieurs sessions. Moi avec ma curiosité et eux avec l'idée de pouvoir me partager la manière dont ils écoutent le monde, dont ils écoutent les sons qui les entourent, dont ils écoutent les vibrations aussi. Tout à l'heure, on parlait de vibrations. Donc, il y avait cette idée de pouvoir comprendre comment l'autre écoute. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à relier l'écoute au fait d'entendre. Et finalement, avec ce projet, mais aussi de plus en plus, j'ai l'impression que ce sont quand même deux activités assez séparées, pas forcément si logiques ou en tout cas pas si naturelles que ça. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, en tendant à entendre beaucoup de sons, à être baigné dans les sons un peu au quotidien, un peu tout le temps. Et finalement, on peut aussi écouter en entendant autrement ou en n'entendant pas.
Pauline Nadrini.
C'est une perspective très intéressante parce que le micro, c'est pas une super oreille. David Makers a fait un album qui s'appelle Microphones Are Not Ears. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est aussi toutes ces pratiques d'enregistrement, notamment qu'on dit contact avec ce qu'on appelle des micros piezo, qui fonctionnent différemment que des micros en ambiance aérienne parce qu'ils impliquent la mise en mouvement de particules piezoélectriques. Donc il y a une dimension de contact qui donne une impression d'immersion dans la matière sonore et qui sont liées à l'expérience de la vibration. Donc tout cet aspect kinesthésique, corporel de l'écoute est ouvert aussi par les pratiques d'enregistrement et permet effectivement d'appréhender des écoutes autres qui ne passent pas par l'oreille, que ce soit celle effectivement des malentendants ou des écoutes sourdes, et également des écoutes sur le plan naturaliste, c'est-à-dire de comprendre comment des espèces vivantes écoutent différemment de nous, écoutent par leurs articulations, par des poches d'air à travers cette expérience vibratoire.
Félix Blum, comment on fait avec les questions techniques? Là, on parlait des micros piézoélectriques, il y a des progrès, il y a des évolutions techniques, il y a des matériels qui datent de différentes époques, il y a un savoir-faire technique, vous êtes ingénieur du son, et en même temps, souvent quand on parle de son, on a tendance à tout rabattre sur ces questions techniques. On comprend bien que, s'agissant des arts visuels, par exemple, c'est pas la virtuosité qui va nécessairement faire la créativité la plus intéressante. J'imagine que c'est exactement pareil pour le son. Donc, quel rapport vous entretenez-vous à ces conditions techniques, au fond?
Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une formation technique au départ, en fait, qui vraiment a précédé mon travail d'artiste sonore ou de création pure. Donc, voilà, pour moi, ça a été un acquis dès le départ. Et c'est vrai que, en tout cas pour moi, dans ma démarche, le fait de pas être préoccupé par des questions techniques ou par des questions de microphone ou d'enregistreur, enfin voilà, ça me permet de pouvoir libérer du temps et de la liberté pour pouvoir prendre les sons, pour pouvoir créer, pour pouvoir ne pas avoir ces contraintes ou ces limites techniques. Cela dit, c'est sûr que on utilise des outils qui captent le réel qui nous entoure, mais qui vont pas le capter de la même manière que nos oreilles. On en a parlé un petit peu dans la première partie. Et donc, je pense que là où se situe un peu le travail plus artistique, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive à partager un sentiment sonore, une expérience sonore, comment est-ce qu'on la capte, comment est-ce qu'on éventuellement on compose avec, comment est-ce qu'on la mixe, comment est-ce qu'on utilise tous ces outils techniques pour pouvoir partager une envie ou partager quelque chose avec les possibles personnes qui vont l'écouter par la suite. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que avoir une maîtrise technique, ça permet en effet de pouvoir donner plus de liberté à cela.
Pauline Nadrini.
Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent le field recording, qui viennent de l'ingénierie du son beaucoup plus que de la composition musicale, ou alors aussi qui viennent de scènes DIY comme la noise,
DIY pour do it yourself, donc voilà, de bricolage.
Bricolage, et il y a aussi toute une dimension voilà de bricolage hein, dans ces pratiques de captation de terrain. J'ai travaillé notamment sur un artiste sonore qui s'appelle Knut Victor et qui, avec des couvercles de lessiveuse par exemple, créait des paraboles pour mieux capter les sons, qui avait plein de systèmes pour accéder à des zones enfouies comme des terriers de lapin pour enregistrer un lapin dans son sommeil en mettant une chaussette sur la bonnette du micro. Et donc il y a tout cet aspect voilà de bricolage qui me semble assez important. Et il y a toujours quelque part une sorte de balancier entre l'hyper sophistication du matériel qui peut parfois impressionner et en même temps beaucoup de pratiques assez créatives avec le matériel de terrain.
Et puis il y a les, on en parlait tout à l'heure à propos du téléphone par exemple, il y a les usages qu'on fait de ces techniques, non pas pour créer mais pour recevoir éventuellement les créations. C'est cette question-là que vous vous êtes posée aussi, Félix Blum, quand vous avez commencé à réfléchir à ce que vous qualifiez tout à l'heure de situation d'écoute. C'est pas du tout pareil, j'imagine, de créer une œuvre dont on se dit que les gens vont l'écouter sur leur chaîne IFI, leur téléphone portable ou leur autoradio, ou de concevoir un dispositif dans un centre d'art contemporain et de réfléchir à la manière dont les gens vont se corporellement se positionner pour entendre ou même écouter ce que vous leur proposez.
Oui, c'est sûr que c'est des situations d'écoute qui sont tout à fait différentes, et puis aussi souvent des disponibilités aussi d'écoute. C'est pas la même chose d'écouter quelque chose sur son téléphone pendant un trajet de métro que de faire la démarche d'aller dans un centre d'art, de pouvoir passer du temps à écouter, d'avoir ce temps ou à découvrir ce que l'artiste ou ce que le lieu va nous proposer. C'est un grand avantage de pouvoir avoir cette maîtrise dans les lieux d'exposition, justement sur la manière dont on va pouvoir proposer ces sons et ces écoutes. Cela dit, moi je pense quand même que finalement les contraintes techniques certes sont là, mais elles ne font pas tout, elles ne font pas qu'elles soient du tout des limitations à la créativité ou à l'envie de créer. Et plus le temps passe, plus on a accès à des enregistreurs de très bonne qualité, même des applications sur téléphone qui permettent de faire des choses quand même de très bonne qualité avec finalement pas grand chose comme matériel. C'est vrai qu'à l'époque de Knut Victor, il n'y avait pas encore un accès si facile à des enregistreurs de qualité. Et malgré ça, il a réussi à faire de superbes enregistrements avec beaucoup de patience et avec justement beaucoup de temps dédié à cette recherche de l'écoute, cette recherche sonore. Donc aujourd'hui, je pense qu'aussi, finalement, la technique, certes, elle est présente, mais c'est pas forcément ça qui est l'élément important dans le geste artistique ou dans cette invitation à l'écoute.
Vous voulez dire que le numérique, aussi bien dans le processus d'enregistrement que dans celui de diffusion, parce qu'aujourd'hui on peut aussi faire en sorte que tout ça se trouve assez facilement, à changer profondément la donne.
Je pense qu'il y a une certaine facilité, en effet. Alors, est-ce que ça va avec de la qualité ? C'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut très rapidement et très facilement faire une prise de son. Et selon ce qu'on enregistre, selon le geste qu'on a au moment de cette prise de son, selon ce qu'on a envie de partager, je pense qu'on peut vraiment, aujourd'hui, avec très peu de moyens, se permettre de faire des choses très belles et de pouvoir, en effet, les partager via le numérique et via Internet.
Comment vous regardez cette question du partage, de la diffusion via Internet de tous ces field recordings, de toutes ces propositions sonores, Pauline Nadrini?
Il y a une dimension collaborative extrêmement importante. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec un artiste sonore des concerts qu'on faisait déjà dans les années 2000, qu'on appelait le Placard, Head Festival, où on se retrouvait en stream, en fait, à faire des créations sonores qui étaient diffusées en live, en fait, dans le monde entier. Au fond, je pense qu'il y a énormément de plateformes aujourd'hui comme Freesound, par exemple. Il y a Radio Aporé aussi, qui regroupe des captations de field recording et qui les met en ligne, alors parfois sous forme de cartophonie, parfois tout simplement sous forme avec un index thématique ou en fonction du lieu, de la date, de différents phénomènes sonores qui ont été captés. Donc je pense que la numérisation, c'est aussi la possibilité de cette collaboration très étendue dans l'écoute des milieux sonores.
Merci beaucoup, merci à vous, Félix Blum. Donc ce travail à Albi, il est accessible au public déjà?
C'est une exposition monographique qui sera inaugurée la semaine prochaine, le 27 juin, et qui sera ensuite disponible, enfin ouverte au public jusqu'au 9 novembre.
Merci beaucoup. On met la référence sur la page de La Suite dans les idées, ainsi que la référence bibliographique du livre de Pauline Nadrini, Sonder le monde, art sonore, réalisme, environnement, qui paraît aux éditions MF.